c'est un état de conscience, selon la théorie de Théard de Chardin, qui disait que, à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Et donc, tous les membres de la Ligue des optimistes sont en quelque sorte les citoyens de l'optimisme. Voilà, je vais céder la parole à Laurent Ledoux, qui va présenter le conférencier.
Bonsoir à tous. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pierre-Michel Menger, qui est philosophe, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS,
c'est comme ça qu'on le dit, hein.
Oui. À Paris, qui enseigne la sociologie du travail et la sociologie des arts. Alors, j'ai eu le bonheur de l'écouter il y a déjà quelques mois maintenant sur France Culture, parler de son dernier livre qui s'appelle « Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain ». Et vous allez voir, il va nous parler ce soir effectivement de travail créateur et de l'épanouissement que l'on peut trouver dans le travail créateur. Une grande partie de sa recherche a consisté à analyser comment les gens s'organisent ou travaillent dans des circonstances incertaines, telles que par exemple le travail artistique. Donc voilà, il va nous livrer ce soir ses réflexions sur le sujet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, demain nous aurons un séminaire avec Pierre-Michel Menger également, de 9h à 12h30, dans un autre lieu qui est 81 avenue de Tervuren, dans les locaux de Neuromanagement, donc la société de Pierre Morquette. Voilà, sans plus tarder, je lui passe la parole, Pierre-Michel.
Merci Laurent, merci aussi à Luc Simonet de nous accueillir dans cette superbe honneur, et merci à vous d'être là. Dans ce livre dont j'ai parlé à France Culture, et Laurent a entendu cet entretien, c'est un peu la somme d'un certain nombre de recherches que j'ai voulu faire pour associer deux vocabulaires qui paraissent parfois exclus ou exclusifs l'un de l'autre, l'un qui est le travail et l'autre qui est la création. La création dans une représentation un peu romantique des choses, ou l'invention, si on parle du côté des sciences ou des sciences appliquées, pourrait être une sorte de foudroiement des idées, de l'inspiration qui s'abat sur vous, et ça peut être une loterie ou le produit d'un long labeur, mais tout d'un coup on change de cadre et on est foudroyé. Le travail, c'est habituellement plutôt le versant laborieux des choses, et une connotation instrumental, utilitariste de l'activité, de la dépense de soi. Et j'ai pensé que j'ai été intrigué par le fait que les artistes ou bien les scientifiques accordent à l'activité ou la documentent de manière très précise pour indiquer nous ne sommes pas simplement là à attendre le foudrement de l'inspiration et ensuite à élaborer ce qui a été produit dans un instant magique qui devient simplement un acte banal d'élaboration secondaire, mais nous sommes des travailleurs acharnés. Et depuis le 19e siècle, au moins, par exemple, les artistes ont transmis dans des malles ou dans des cartons sous toutes sortes de formes, ont transmis les archives, les matériaux génétiques de leur travail. Quels sont les états successifs de mon travail? Flaubert, Hugo et bien d'autres ont transmis ça comme des pièces importantes de leur activité pour dire voilà comment je travaille et comment je m'acharne en travail. Et à des fins non pas de diminution en quelque sorte de l'image héroïque de l'artiste, mais tout simplement de réalisme et pour crédibiliser le fait que à l'époque même où triomphaient les valeurs de l'originalité, de l'innovation, de l'invention, il fallait aussi dire que ces individus étaient ancrés dans le monde social et que ce n'étaient pas des aérolithes ou des personnages totalement incompréhensibles. Ce sont des. Et ils en tiraient même, il y a une longue histoire de ça, une fierté, une éthique du travail ou d'un certain type de travail. Voilà le genre de questions qui m'intriguaient. Et je l'ai exploré sous toutes sortes d'aspects. Et ce soir, je voudrais peut-être centrer le propos, puisque Laurent m'a demandé de faire un exercice d'une certaine complémentarité entre ce que je peux vous dire ce soir et ce que éventuellement certains d'entre vous entendront demain. Donc, je réserve une partie du mystère de ce que c'est que le talent, l'invention créatrice, pour mon exposé de demain, mais je voulais revenir ce soir sur, ou introduire ce soir, une façon de considérer le travail autrement que de manière instrumentale, donc partir sur une base assez générale. Dans le livre que j'ai écrit, pour vous donner juste des indications générales sur le profil de la démonstration, je me demande au départ quelle est la théorie de l'action humaine qu'il me faut pour comprendre ce que c'est que l'invention créatrice et le travail dont je vais parler. Et donc, je passe par une série de théories. C'est très simple, on peut en imaginer deux pour clarifier les choses assez rapidement. Il y a une grande famille de théories qui sont des théories très déterministes de l'action, qui disent, si je sais exactement à l'origine de l'action quelles sont les propriétés de celui qui agit, quelles sont ses préférences, quelles sont ses ressources sociales, etc. Je peux en déduire intégralement tout ce qui va arriver ensuite. C'est presque de la balistique sociale, en quelque sorte. Il y a des théories sociologiques qui ont tenté ce genre d'exercice pour dire la société, elle a un principe de gravitation. Et c'est comme l'astronomie, c'est comme la physique. Du moment que je décris un individu à travers toutes ses coordonnées d'action et sa personnalité, si j'en sais assez long sur sa personnalité, je peux décrire sa trajectoire dans le monde social comme une sorte de courbe balistique. La société est suffisamment différenciée en strates pour que les écarts entre les uns et les autres agissent comme un principe de gravitation, comme la pesanteur sociale en quelque sorte. Et j'aurais décrit intégralement tout ce qu'il convient de savoir sur le monde humain et social. Ça, c'est une approche qui, évidemment, suppose de dire l'individu se réduit à une équation élémentaire et il est doté de ressources qui ne sont pas de son ressort, qui lui sont transmises par ce qu'il est, par ce qu'il a appris à être, par ce que lui ont transmis ses parents et par la manière dont il l'a exploité pour se former, etc., etc. Mais tout est contenu à l'origine de l'action et à l'origine de la trajectoire. Et donc, je vais essentiellement décrire les individus et le monde social à travers la distribution inégale de ressources, de capitaux, comme on peut les appeler, sociaux, culturels, éducatifs, économiques, évidemment. Et j'engendrerai le monde social à partir de ce genre de raisonnement. Et puis, il y a une autre famille de théories qui disent non, les individus sont essentiellement, mobilisent leurs ressources essentiellement dans l'échange, dans l'interaction, dans la relation à autrui et dans des situations d'apprentissage. C'est une théorie qui est plus dynamique, qui prête plus d'attention à ce que sont les situations très variables où on se meut, mais qui perd en quelque sorte ces notions de gravitation. Les individus ne sont plus définis par leur identité sociale, ils sont définis par leur relation à autrui. Et donc, ayant exploré ça, je me demande comment comprendre, avec ce genre d'outils, ce que c'est que sortir de la simple extrapolation du passé pour inventer quelque chose de neuf. D'où sort ce genre de comportement ? Et comment est-ce qu'on peut utiliser les outils de l'analyse théorique pour comprendre, en sociologie ou en économie, pour comprendre les caractéristiques de quelqu'un qui va innover, changer les choses, inventer du nouveau, déplacer les frontières, risquer, etc. Et donc, pour cela, j'ai besoin de mettre au point un outillage qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est que se comporter en horizon incertain ?» Qu'est-ce que c'est qu'agir sans avoir la certitude du but, sans savoir ce que je vais arriver à trouver au bout du compte ? Et L'affaire comporte notamment des deux dimensions clés qui sont la réflexivité, le retour sur soi. Il faut élever, ça m'a été volé par Luc Simonet, il faut élever son niveau de conscience dans des situations délicates, des situations où on tâtonne, on expérimente. Et d'autre part, il faut pouvoir échanger beaucoup, et à la fois pour capter beaucoup d'informations et pour tester beaucoup auprès d'autrui toutes sortes d'idées pour tâtonner, expérimenter, pratiquer par essai-erreur et progressivement, en quelque sorte, vérifier la qualité de ces hypothèses, non pas pour les soumettre au regard et au jugement strict d'autrui. Il y a toujours un comportement très solide de personnalité qui dit « Ok, je me relie à autrui, mais j'ai quand même des convictions fortes, etc. » Il y a même, d'un certain point de vue, une nécessité fonctionnelle à surdimensionner son ego pour affronter les situations d'incertitude. Je ne peux pas développer tout de suite, mais enfin bon. Voilà le genre de raisonnement qui me conduit notamment à penser que le temps et l'action dans le temps ne sont pas simplement le déroulement de faits prévisibles, sinon on ne comprendrait jamais rien à l'émergence du nouveau et à des situations inhabituelles, imprévisibles, extrêmement variables, qui sont l'essence même de ce qu'est une activité qui prétend avoir un contenu créateur. Et alors, une fois que j'ai mis au point ce genre d'outils qui suppose un peu d'élaboration théorique, alors c'est un chapitre un peu plus compliqué, mais il le faut. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'agir en horizon incertain, il faut savoir quel est le genre de ressort comportemental qui est à l'œuvre. Ensuite, j'ai affaire à la qualification du travail. Qu'est-ce que c'est que travailler ? Voilà le problème qui arrive immédiatement. Et il se trouve qu'il y a deux conceptions qui traversent l'histoire, deux conceptions très différentes du travail. Il y a une première conception qui est le travail, c'est un moyen pour une fin. Le moyen, c'est la dépense d'énergie, c'est la mise en œuvre de connaissances acquises qu'on s'est procurées dans sa formation, c'est l'effort. C'est aussi la contrainte. Essentiellement, je travaille afin de me procurer des ressources nécessaires pour avoir les biens de première nécessité, ceux qui me permettent de reproduire ma force de travail, comme on dit, mais aussi des biens de deuxième plan, des biens supérieurs, qui sont ceux qui vont me procurer l'essentiel de mes plaisirs. Le loisir, les biens de consommation, les services, voilà ce qui doit me procurer l'essentiel de ce qui fait la qualité de mon existence. Le travail est rigoureusement, dans ce cas-là, un outil, un instrument, quelque chose d'utilitaire, et donc on en arrive à une simplification extrême dans des formules bien connues comme « je perds ma vie à la gagner », en quelque sorte « je perds... je dépense mon énergie pour me procurer ce qui est la source essentielle de ma satisfaction, c'est-à-dire du loisir. » Ça, c'est une conception du travail qui est notamment à l'origine de modèles économiques de base qui sont, au fond, on peut dire la même chose du producteur et du consommateur, ils sont chacun, ils instrumentent leur temps, ils instrumentalisent leur temps pour se procurer autre chose. Et il se trouve qu'avec ce genre de raisonnement, on n'explique pas du tout ce qui est considéré comme peut-être la fine pointe de ce que l'humanité a de meilleur, par exemple les activités inventives, les activités créatrices, ce qui suscite l'admiration dans nos sociétés et qui déroge en quelque sorte à la loi normale des choses, ce qui fascine, et ce qui permet de déclencher de l'admiration d'autrui de soi pour quelque chose qu'éventuellement on ne sait pas faire, ce qui est une... On peut décrire les propriétés anthropologiques de ce que c'est que l'admiration, pourvu qu'on se dise... la société dans laquelle j'évolue, ça n'est pas une société à somme nulle, en quelque sorte, où tout ce qui arrive de bon, ou tout ce que quelqu'un sait faire de bien, serait autant d'enlever à autrui, mais une société où je m'enrichis des qualités d'autrui. J'admire ce que autrui sait faire, que je ne sais peut-être pas faire autant, ce qu'autrui saura faire de magnifique, je l'applaudirai, je l'admirerai, sans me dire que c'est un retour vers moi comme une somme de frustration. J'aurais tellement aimé faire ça, et j'en suis jaloux, j'en suis envieux, etc. Il y a une représentation du monde qui est très courante, qui dit ça, qui dit tout ce qui peut arriver de bon à quelqu'un, c'est autant qu'il m'est enlevé à moi, et donc c'est un monde de comparaison envieuse. Mais il y a un autre monde possible, et dans cet autre monde possible, on accorde beaucoup d'importance à des réalisations qui paraissent hors du commun, et qui sont précisément les actes d'invention, de création, ou d'innovation, ou même la qualité de quelqu'un qui prend des risques pour créer une entreprise, et de la richesse, et du travail. Au XIXe siècle, on avait désigné les trois piliers de la modernité, c'était le savant, l'ingénieur, l'artiste et l'entrepreneur. D'une certaine manière, cette idée-là circule encore et elle veut dire quelque chose. En tout cas, ces catégories-là, ces figures-là de la société ont certainement en commun de ne pas travailler, de ne pas se livrer à un travail qui peut être représenté par le vocabulaire que je viens d'employer, le vocabulaire instrumental et utilitariste. Dans le travail de type créateur, ou le travail de deuxième type en quelque sorte, il y a d'autres dimensions qui entrent en jeu, des dimensions d'expressivité. C'est ce que des auteurs... C'est une histoire qui court depuis Aristote jusqu'à Anna Arendt, Habermas, Castoriadis et bien d'autres, en passant par Hegel et par Marx. C'est une très longue histoire, une histoire de la conception expressiviste du travail, qui dit à peu près ceci: le travail, c'est un moyen par lequel j'agis sur mon environnement, mais en agissant sur mon environnement, j'agis aussi sur moi-même, c'est-à-dire que je découvre progressivement ce que je ne savais pas être mes qualités ou mes possibilités, mes potentialités. Et je n'ai pas d'autre moyen de le découvrir qu'en agissant. Agir, ça n'est pas simplement faire des gestes ou méditer, c'est aussi entrer en relation permanente avec son environnement et rechercher dans son environnement des qualités d'apprentissage et des qualités de transformation de soi, de découverte de ses propriétés, de ses capacités, de ses potentialités. Voilà le type de raisonnement qu'on doit faire pour concevoir le travail comme expressif. Expressif, ça veut dire aussi, en quelque sorte, il livre vers l'extérieur quelque chose qui paraît intérieur. Mais cet intérieur, il a été, dès le romantisme, considéré comme une sorte d'infini subjectif. Ça n'était pas une sorte de monde clos en soi-même, bien constitué comme un stock de choses, mais une sorte de découverte indéfinie de qualités, d'idées, de sentiments, de forces, de compétences qui sont là peut-être à l'état latent, mais dont on ne se sait pas porteur immédiatement. Et c'est dans la relation par l'acte de travail, dans la relation au monde, que on sort de soi-même des choses dont on ne peut pas se savoir immédiatement porteur. Une des manières de désigner ceci, c'est une collègue qui en a parlé, qui veut faire une sorte de sociologie du discours intérieur ou de la relation à soi dans le discours intérieur. On n'a hélas pas de micro branché sur le discours intérieur. Songez à ce que vous faites et à tout ce que vous vous dites à vous-même en agissant ou en vous reliant à autrui. Il y a toujours à l'intérieur de vous-même une sorte de contrôle réflexif par le discours qu'on s'adresse à soi-même pour tester, pour expérimenter, pour envelopper le réel immédiat dans des possibles qu'on peut verbaliser jusqu'à un certain point dans le discours intérieur. Et il y a dans les, dans l'acte de travail qui passe par exemple par des matériaux intermédiaires de création, il y a cette façon presque, je dirais, physique de transformer le discours intérieur en tentative. Dans le livre, je parle du sculpteur Rodin. Rodin faisait quantité d'essais sur la matière et il choisissait d'ailleurs de tout garder, éventuellement de recycler des états intermédiaires de son travail. Je pense que ça ressemble assez bien à une manière, avec ses doigts, de modeler le discours intérieur sous forme de glaise ou sous forme de matériaux sculptés. Voilà le genre de réflexion qu'on peut se faire, parce que la situation dans laquelle on se trouve quand on travaille dans des conditions de cette espèce, qui sont encore une fois ne pas simplement extrapoler le passé, sinon on n'invente rien d'intéressant, on ne fait qu'inventer un peu plus que, on appelle ça une innovation incrémentale, mais une innovation un peu plus radicale suppose évidemment de prendre des risques et d'envisager toutes sortes de situations et de se mouvoir avec l'idée que la fin n'est pas connue d'avance. Ça, c'est tout à fait essentiel. La fin n'est pas connue d'avance. On peut bien se dire qu'on se dirige vers quelque chose, que le but, c'est bien d'achever quelque chose, et de résoudre un problème, ou de créer une œuvre, ou de monter une affaire viable, profitable, etc. Mais la question est, quels sont les voies et moyens d'y parvenir? Et c'est là que se créent toutes les situations possibles, l'embranchement entre des voies qu'on a choisies, puis tout d'un coup ça bifurque dans un autre sens, et on y va, et on essaye, on expérimente, et ensuite on réajuste en fonction des leçons de l'expérience et des retours aussi qu'on fait avec autrui. Flaubert avait un gueuloir où il lançait ses textes et il regardait comment ça sonnait quand il les prononçait à voix haute. Ça, c'était le premier état des choses. Donc, il pratiquait une sorte de réflexivité vocale. Et puis, la deuxième état, c'était il réunissait des amis et il leur lisait ses textes et demandait des réactions. Il choisissait ou non de garder des éléments de ses réactions. Bref, il y a une dimension collective dans ce genre d'activité et il y a en même temps une capacité de retour sur soi et de en quelque sorte de maîtrise à un moment donné, de consolidation de l'identité dans la situation de risque qu'on prend, puisque quand on se meut en horizon incertain, évidemment, rien n'est acquis, rien n'est stabilisé tout de suite. On peut conquérir sur l'incertain progressivement et consolider avant qu'ensuite on livre le produit de tout ça à son environnement et qu'on vérifie si cet environnement attribue ou non du sens et de la valeur à ce genre d'activité. Mais la première incertitude, c'est celle qui a lieu dans le cours même de l'action. Et la deuxième, c'est comment sera reçu ce travail. Et ça, c'est une toute autre manière de considérer évidemment l'acte de travail, et les psychologues ont souvent décrit ça à travers l'idée qu'il y a une expérience de flow. En quelque sorte, on est submergé par des moments où on entrevoit peut-être un résultat futur, mais on est gratifié par le fait de surmonter des obstacles, d'éprouver le sentiment qu'on avance, même si on passe par des états extrêmement contrastés. La psychologie de base de ces états de travail, c'est l'excitation parfois très violente à l'idée d'avoir des idées nouvelles et tout d'un coup de capter quelque chose, et puis on se lance, on fait on écrit ou on fait du brainstorming et puis après tout d'un coup on se dit bon, mais qu'est-ce qui est exactement sorti de tout ça, et c'est du cooling down, on refroidit la machine et on regarde mais qu'est-ce qui est sorti, et je vais commencer à examiner ça avec un œil plus froid. Et là, patatras, il y a souvent de la déception, du déchet, il faut en laisser beaucoup et en garder un petit peu, et l'épreuve recommence ensuite. Donc on alterne des cycles d'excitation et puis de dépression, d'une certaine manière. Mais il faut savoir que chaque moment du cycle est suivi du suivant, et que donc l'affaire se relance et se relance et se relance. Et bien sûr, dans ce type de travail, il faut des éléments du premier travail, parce que personne ne peut supporter de se comporter en horizon incertain tout le temps. Ce n'est pas possible. C'est une épreuve qu'il faut traverser, et c'est une épreuve qui est tendue. D'ailleurs, il y a des adjuvants à ça. Beaucoup d'artistes utilisaient des drogues, de l'alcool, etc., parce que ce sont des anxiolytiques de l'époque. C'est une épreuve difficile, et en même temps, c'est celle qui est une des ressources de, du travail conçu de cette manière-là. Donc, il faut avoir enduré l'épreuve et en même temps capitaliser dans ce travail. Si vous étiez en permanence avec le sentiment que vous êtes sans arrêt en train d'entreprendre quelque chose de nouveau, vous n'auriez pas le sentiment de construire des appuis pour avancer. Il faut construire des appuis pour avancer. Autrement dit, élaborer son style de travail, son profil de personnalité dans le travail, que ce soit celui d'un scientifique, d'un entrepreneur ou d'un artiste. Je crois que les choses sont souvent de cet ordre-là. À un moment donné, il faut définir son équation et savoir que c'est sur celle-là qu'on va construire. Et donc, on prendra appui sur des solutions éprouvées, de bonnes recettes, celles qui ont marché. Mais à un autre moment, ces recettes-là deviendraient trop simples et affaibliraient en quelque sorte la stimulation intrinsèque que vous recherchez dans l'activité dès lors que vous voulez de nouveau vous lancer un projet intéressant. Et donc, on passe de projet en projet en ayant le sentiment que il faut des acquis, mais que le travail est stimulant s'il, en quelque sorte, élève la difficulté jusqu'à un certain point. J'ai un jour, aux États-Unis, où je faisais des conférences, je me suis dit, je vais interroger tous les collègues que je vois et je vais leur demander de me qualifier leur prochain travail, ou leur prochain livre, ou leur prochain grand projet. Et je leur demanderai, est-ce qu'il vous paraît plus simple ou moins simple que le précédent ? Et la réponse était invariablement la même, c'est un projet important, il est beaucoup plus intéressant que le précédent et il est beaucoup plus difficile. Donc le sentiment est de se livrer à l'égard de soi-même, à une sorte d'accepter une forme de mise en tournoi de soi avec soi pour avancer et pour en quelque sorte maintenir l'état de stimulation dans ce genre de situation de travail. Donc ce sont les deux forces motrices, je dirais, prendre appui sur des solutions qui ont prouvé leur efficacité et en même temps déplacer le terrain pour avancer et pour avoir le sentiment de se développer. Voilà le genre de raisonnement dont j'ai besoin pour considérer le travail dans ce qu'il peut avoir de positif, de riche, d'intéressant. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça n'est pas la définition moyenne du travail. Effectivement, dans ce cas-là, je ne me contente plus d'une conception simple du travail. Je vais dire, le travail dans ce qu'il a de plus admiré et de plus recherché, d'une certaine manière, c'est un travail plutôt complexe et c'est un travail qui doit avoir des propriétés de formation permanente. Autrement dit, il ne s'agit pas de séparer les choses en deux, en disant simplement d'un côté le travail et de l'autre le loisir, mais il s'agit de mélanger trois facteurs. La vie est faite à ce moment-là de trois choses. C'est d'un côté le travail, de l'autre le caractère formateur du travail, accueillir ce que le travail a de formateur par la multiplicité des expériences et la variabilité des situations de travail, ce qui fait qu'il n'est pas routinier. Et donc, il peut être gratifiant en n'étant pas routinier. Et troisièmement, le loisir. Le loisir, c'est le temps de respiration, c'est le temps d'ouverture, etc. Dans ces situations-là, quel est le moteur de l'activité ? Le moteur de l'activité, la psychologie le dit depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire une activité qui est faite d'abord pour être gratifiante et pas pour un profit clairement désigné comme le but ultime de l'activité. Je veux gagner le maximum d'argent en ayant l'équation la plus efficace possible de l'usage de mon temps pour y arriver.
Ça, c'est comme dans la fable du laboureur et ses enfants, c'est pas comme ça que ça arrive. Se représenter le succès de l'action en horizon incertain en disant « j'ai la bonne équation pour arriver droit au but », c'est le plus sûr moyen d'échouer. Sinon, si j'avais, moi, la bonne équation, je ne serais plus chez vous, je serais en train de dominer le monde, puisque j'aurais fait des profits extraordinaires, je saurais comment atteindre le succès à coup sûr. Non, évidemment, ça n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de raisonnements. Dans les fables, dans la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, l'idée est exactement celle-là. Le laboureur dit à ses enfants... qui lui demande comment ils peuvent faire fortune, il leur dit, si vous vous souvenez, il leur dit, il y a un trésor au fond du champ. Donc les enfants s'acharnent à labourer le champ, à tort et à travers, et finissent par dire au père, mais père, il n'y a pas de trésor au fond de ce champ. Et le père les regarde en disant, eh bien regardez ce que vous avez fait. Vous avez magnifiquement labouré ce champ, maintenant il est prêt à être ensemencé, et c'est ça le trésor. C'est tout simplement ça le trésor. Autrement dit, c'est un produit dérivé de l'action et pas le but que vous deviez viser en pensant qu'il y avait effectivement un trésor. Non, le trésor, c'est un produit dérivé de l'action. Et donc, c'est la motivation intrinsèque qui doit toujours gouverner jusqu'à un certain point. Dans les phases où on accorde le plus d'importance à son travail, je ne veux pas dire que c'est comme ça que ça se passe tout le temps, mais dans les épreuves ou dans les défis qu'on se lance et qui sont substantiels, cette motivation prend une importance considérable. Et c'est aussi celle-là qui crée ces états de... ce psychologue américain qui s'appelle... il a un nom compliqué, Csikszentmihalyi, a écrit un livre très connu sur ce thème du flow, et il appelle ça une activité autotélique. Autotélique, ça veut dire qu'il a son but en elle-même. Télos, c'est le but. Autotélos, bon, tous ces mots, autonomie, autotélique, etc., renvoient toujours à une sorte de boucle où l'individu a le sentiment de se gouverner et de ne pas se laisser aspirer par des contraintes externes. Ce qui est se réapproprier le sens de ce qu'il est et la totalité de ce qu'il est, mais il ne peut pas se le réapproprier sans échanger avec autrui. C'est ça qui est essentiel. Il n'y a pas de, on n'est pas dans un monde, comme dirait Leibniz, de monade où chacun est fermé sur lui-même et contient l'univers entier dans sa propre substance vue de son point de vue. Je ne veux pas développer les théories de Leibniz qui sont magnifiques, mais enfin bon, l'idée c'est on pourrait être enfermé en soi. C'est là qu'il faut marquer une distinction importante avec des théories comme celle. Une théorie dériverait complètement si elle transformait cette histoire de travail créateur et de réalisation de soi par le travail, si elle le transformait en un absolu désirable simplement. Et Marx, dans sa théorie du monde meilleur, est allé vers cette dérive-là parce que son idée était de dire la société a imposé la division du travail. La société progressivement, ça a été un ressort de la croissance des forces productives et du développement social, mais à un moment donné, il y a une limite. Donc on a créé de la richesse, on a créé du développement, c'est sa manière de dialectique de penser l'histoire, mais on engendre une contradiction qui est que cette division du travail, cette croissance des forces productives, elle est obtenue à un prix très élevé qui est la mutilation des talents individuels, la mutilation des capacités individuelles. La division du travail segmente les individus, les spécialise dans des tâches et dans des travaux et finit par sous-exploiter la richesse du potentiel humain. Voilà l'idée. Et en outre, crée des distorsions évidemment d'exploitation de classe, des entrepreneurs tire avantage de la segmentation des talents et de la division du travail pour augmenter la profitabilité de ces parties mutilées de l'individu qui sont plus productives. Effectivement, produire des épingles dans une division du travail très fine, comme dirait Adam Smith, on a plus de chances de produire un nombre très élevé d'épingles si on ne fait que ça, que si on fait les épingles, le tricot, etc., etc. Donc la division du travail, elle crée du profit, mais elle crée du profit sous forme de capital, mais elle mutile le travail. Et Marx disait, pour restituer au travail sa valeur expressive, je dois me débarrasser de la division du travail. Si j'arrive à me débarrasser de la division du travail, ça voudra dire que chacun sera amené à faire toutes sortes de choses. Si une bonne société peut être créée, tout le monde pourra libérer tout le potentiel qui est en lui. Alors, il y a, dans son raisonnement, il y a deux arguments, deux conditions de départ, et il y a un implicite, un présupposé anthropologique. Les deux conditions de départ, c'est tout le monde détient tous les talents au même degré. Il n'y a pas de différence radicale entre les uns et les autres. C'est à peu près équivalent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait surtout pas mutiler les individus. Ça s'exprime dans un vocabulaire relativement classique de la créativité. Chacun a en lui des ressources inépuisables de créativité. C'est ce que disent parfois qui vous voulez. Enfin, beaucoup de monde, si on veut. Ça, c'est la première condition qu'il met. Et deuxièmement, il ne faut pas de rareté des ressources. Il faut que chacun est un temps indéfini pour actualiser tout ce potentiel. S'il y a rareté des ressources, on va recommencer à créer des situations de contrainte, de limitation, et donc l'individu n'ira pas au bout de ce qu'il est. Mais il y a un implicite. Il y a un implicite, c'est, et ça, ça a été très bien analysé par des grands auteurs, comme Gerard Cohen, l'implicite, c'est pour que ça marche, il ne faut pas que les individus se comparent entre eux. S'ils commencent à se comparer entre eux, ils vont peut-être s'apercevoir que l'un fait des choses plus intéressantes que l'autre. Et si l'un fait des choses qui sont plus intéressantes que l'autre, immédiatement, ça va créer un biais de préférence et on va se dire, tiens, celui-là, il est peut-être plus doué pour la peinture que cet autre-là. Et la comparaison va devenir l'instrument d'une resegmentation des qualités et on va réintroduire la division du travail à travers la comparaison et à travers le rapport à autrui. Et c'est là la contradiction anthropologique, c'est dans un raisonnement qui irait très loin sur le thème « chacun peut réaliser tout le potentiel dont il est détenteur, mais à condition de ne pas se comparer à autrui », ça veut dire « je peux être capable de réaliser un travail inventif sans avoir aucun jugement d'aucune espèce de la part d'autrui. Autrement dit, je dois me couper d'autrui, je dois me couper de la relation à autrui pour accomplir la totalité de ce que je suis. » Ça a un côté, d'ailleurs, qu'on entend dans certains amateurs qui font de l'art en amateur, peuvent parfois défendre l'idée que l'art est intégralement corrompu par le marché, par la spéculation, par les avis extérieurs, par le jugement, etc. Et que l'essentiel de ce qui compte, c'est l'intention profonde qui ne peut être rapportée à aucune mesure précise de la valeur de ce que je fais. L'UNESCO a décidé de définir les artistes comme ceux qui ont l'intention de créer des œuvres, et pas plus que ça. C'était pour l'UNESCO la définition du professionnel. Donc, on peut aller très loin, on peut donner même une image institutionnelle de cette idée que le véritable créateur serait celui qui aurait, en quelque sorte, qui serait détenteur de ça en lui-même et qui n'aurait peut-être même pas besoin de l'actualiser et surtout pas de l'exposer au regard d'autrui, pour les raisons que je viens de dire. Or, je pense que c'est une limite absolue du raisonnement. Tout démontre de toutes les manières que les activités créatrices, dans les trois domaines que je prends en compte ce soir, sont des activités qui ont une dimension profondément collective. Sinon, ça voudrait dire que je ne peux pas bénéficier de la richesse d'autrui, des qualités d'autrui, de l'avis d'autrui, du jugement d'autrui. Bien sûr, je dois en prendre et en laisser. C'est toute la force du rapport à autrui. En saisir quelque chose et ne pas me laisser, en quelque sorte, laminer par le jugement d'autrui, anéantir par le jugement d'autrui. C'est un point essentiel. C'est pour ça qu'il y a, en quelque sorte, une épreuve de la réalisation de la personnalité dans ces mondes de travail incertain. Il y en a qui, peut-être, ne supporteront pas facilement cette épreuve de l'incertain et ce besoin d'avoir une structure de personnalité suffisamment solide pour affronter les épreuves. Et puis, donc, ils se rabattront peut-être sur des activités plus ordinaires, plus tranquilles, plus certaines. À l'inverse, celui qui, en quelque sorte, surestimerait totalement ses capacités et dirait « quoi qu'il arrive, je triompherai » et qui ne prendrait pas en compte le jugement d'autrui, lui-même dériverait vers une sorte de, probablement, de délire mégalomaniaque qui pourrait n'avoir plus aucun rapport avec les principes que j'ai énoncés, c'est-à-dire tirer de la relation à autrui son caractère, ses leçons de formation, ses leçons d'apprentissage, c'est des informations utiles. Mais il faut des dispositions particulières pour extraire de ces relations à autrui des bonnes impulsions sans se laisser en quelque sorte submergé par l'épreuve de la critique, etc., etc. En ce sens-là, le travail dans cette deuxième conception, ce travail en horizon incertain, c'est un travail, c'est une activité où il faut pouvoir jouer sur les mécanismes de ce qu'on appelle en vocabulaire savant la résilience, c'est-à-dire savoir renaître de ses cendres en cas d'échec, etc. Parce que ça fait partie des conditions intrinsèques de l'activité que d'être en situation d'échec et d'arriver parfois à échouer. Si vous étiez sûr d'arriver à tout coup, il n'y aurait plus d'incertitude. Il faut pouvoir donc affronter la possibilité de l'échec et savoir comment gérer l'échec. Alors, voilà le genre de raisonnement qui peut être développé sur le travail. Demain, je développerai mon idée sur les mécanismes sociaux, les mécanismes de compétition qui sont à l'œuvre pour faire fonctionner cette équation du travail. Mais je voulais dire maintenant, pour aller vers la conclusion peut-être un peu développée de cet exposé, je voulais revenir sur le partage entre travail et loisir. Parce que si vous développez la conception numéro 2, le loisir change de visage aussi. Dans la conception numéro 1 du travail, le loisir est porteur de l'essentiel des attributs gratifiants. Or, il se trouve que dans la société actuelle, nous avons affaire à un mouvement de bascule à grande échelle qui est en contradiction avec une tendance séculaire. La tendance séculaire de l'évolution sociale, c'était la baisse historique du temps de travail et donc l'augmentation continue du temps de loisir. C'est ça l'histoire longue du travail. Et quand on regarde les tendances récentes, on a affaire à quelque chose de très particulier qui est les ouvriers ont effectivement vu les populations ouvrières et les emplois moins qualifiés, ont vu leur temps de loisir augmenter. À la fois de manière absolue dans un emploi donné et aussi par ce qu'on appelle des effets de composition, c'est-à-dire il se trouve que c'est sur les emplois moins qualifiés que l'incidence du temps partiel et du chômage est la plus élevée. Donc on le retrouve dans les agendas des individus quand on raisonne en termes de moyenne, mais même quand on prend un emploi à temps plein dans le monde ouvrier, le temps de travail a plutôt diminué avec le temps dans le cours des décennies. Et le temps de loisir a augmenté. Simplement, ce loisir, il peut avoir une qualité relativement médiocre si les revenus des individus ne sont pas très élevés et si l'équipement culturel, le capital culturel des individus n'est pas très élevé. Ce loisir peut devenir un loisir plutôt passif ou un loisir à faible intensité expressive. Sauf dans des activités qui sont des activités historiquement associées à un certain loisir ouvrier, que sont des activités de bricolage, de jardinage et des choses comme ça. Alors maintenant, regardons ce qui se passe du côté des professions supérieures. C'est celles qui, dans les sociétés développées, ont vu leurs effectifs augmenter. Le monde ouvrier a recul. Il est en partie rebasculé vers l'emploi des employés. Le vrai, je dirais, prolétariat aujourd'hui, c'est probablement une partie du monde des employés et des services. Mais de l'autre côté, dans les sociétés qui se développent et qui sont en croissance, aux aléas de conjoncture près, comme celles que nous connaissons actuellement, et nous ne savons pas encore la durée exacte de réalisation, Dans les sociétés développées, c'est l'emploi supérieur, celui de ce qu'on appelle les cadres, les professions intellectuelles supérieures, qui a vu ses effectifs augmenter continuellement. Et là, nous avons assisté à un retournement de conjoncture très spectaculaire qui était, autrefois, les cadres et les emplois supérieurs avaient plus de loisirs que les ouvriers, et désormais, ce sont les ouvriers qui ont plus de loisirs que les cadres et les professions intellectuelles supérieures. C'est une tendance forte qui est observée au plan international. Autrement dit, la qualité et la quantité du travail aujourd'hui sont reliées entre elles, positivement. Vous avez une chance d'avoir un travail de meilleure qualité et vous l'aurez aussi en plus grande quantité. Ça veut dire aussi qu'on va exiger de vous plus de travail dans les emplois supérieurs qu'avant. Mais un travail qui est distribué aussi de manière différente. Vous aurez peut-être plus d'autonomie, plus aussi d'injonction à l'autonomie. Regardez comment les gens travaillent maintenant. J'étais dans le train, tout le monde avait son laptop et préparait de ceci, de cela. Les lieux de travail, les lieux de vie, les lieux de, les espaces de convivialité, les espaces domestiques, tout ça s'interpénètre plus qu'avant. Il y a peut-être moins de contrôle subordonnant précis sur le lieu de travail par une hiérarchie, etc. Mais on peut dire aussi c'est une manière d'extraire des individus des qualités et des formes de motivation au travail, d'implication au travail, qui sont davantage sollicitées qu'avant. Donc, la qualité et la quantité sont corrélées avec cette propriété qui est, en quelque sorte, de demander aux gens d'extraire d'eux-mêmes plus d'inventivité qu'avant, plus de créativité au travail qu'avant. Et pour ça, évidemment, le bon management, ça ne sera certainement pas le management du contrôle sourcilleux à la baguette, c'est évidemment tout à fait autre chose. C'est le casse-tête maintenant habituel des grandes théories du management, c'est comment pouvoir obtenir des individus qui s'engagent, mais qui s'engagent en plus dans une intensité de travail supérieure. C'est ça la nouveauté des 20 dernières années. C'est une intensité de travail supérieure avec une demande d'implication supérieure. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces catégories supérieures, qui sont aussi celles qui ont le meilleur équipement culturel, je dirais, en termes de formation et de préférence et de goût, ou même d'origine sociale, pour aller vers des loisirs sophistiqués, se retrouvent avec un temps de loisirs beaucoup plus limité qu'avant, mais en même temps, les ressources culturelles pour en extraire davantage. Et je dirais qu'on a une sorte de chassé-croisé entre le travail et le loisir. Le travail se charge d'une partie des valeurs du loisir, c'est-à-dire le caractère expressif, le caractère gratifiant que peut receler le loisir, et donc des propriétés qu'on peut y rechercher ou qu'on est prié d'y rechercher, si je me situe dans la relation d'emploi. Et à l'inverse, le loisir devient une sorte de travail qu'il faut réaliser pour extraire le maximum d'expérience possible dans le minimum de temps ou dans un moindre temps disponible. D'où l'idée j'étais à New York pour Halloween, et Halloween c'était aussi le marathon de New York, les avions étaient bourrés, les gens allaient faire le marathon de New York. C'est un loisir qui avait une intensité d'expérience plus élevée que de débarquer à New York, voir 3 magasins et repartir, ou 2 musées. Il fallait faire tout ça, plus le marathon, plus tout ce qu'il y avait autour, et donc s'être préparé, etc. Autrement dit, on doit loger dans un temps de loisir qui est plus restreint, une quantité d'expérience plus élevée pour obtenir aujourd'hui le bénéfice de ce loisir, et à l'inverse, on doit rechercher ou demander au travail ou être prié de trouver dans le travail des propriétés qui étaient classiquement attribuées au loisir. Voilà le type de croisement historique des choses qui a été observé dans les enquêtes que j'ai explorées et dont je donne le contenu dans un des chapitres du livre. J'appelle ça « Travail expressif, loisir intensif ». Voilà le type de raisonnement qu'on peut mener pour comprendre les évolutions dans les agendas individuels et dans la représentation collective de ce que sont les rapports asymétriques qui qui sont devenus asymétriques entre travail et loisirs. Ils étaient simplement symétriques comme des complémentaires et non pas des substituts pendant un certain temps, et maintenant les choses se mélangent davantage. Évidemment, les technologies y poussent considérablement permettent en quelque sorte d'instrumenter tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la compétition internationale sur quelle est aujourd'hui la division internationale du travail, est-ce qu'elle tiendra encore longtemps entre les pays dits en développement qui seraient alloués le travail de moindre qualité et les pays développés qui conserveraient pour eux-mêmes le travail le plus enrichissant et à plus forte valeur ajoutée. Ces frontières-là aussi se déplacent à mesure que les pays autrefois en voie de développement maintenant se développent à toute vitesse et vont nous dépasser probablement rapidement, ou sont déjà franchi le cap. Voilà le genre de problème qui permet de montrer comment la valeur du travail et la conception du travail se modifient. Mais je veux dire que pour terminer et conclure, cette dualité du travail, évidemment, ne peut pas être projetée sur tout le monde. C'est bien évident. Et le pire serait, en quelque sorte, de faire croire à quelqu'un qui a un travail relativement simple qu'il doit s'impliquer comme si c'était un travail gratifiant et épanouissant de toute manière. Il y a des limites à tout, et il y a des limites à l'idéologie managériale qui voudrait appliquer de manière simple et indifférenciée ou faiblement différenciée un même argument à toutes sortes d'emplois. Non, évidemment. Cela dit, une des tendances historiques de la conception du travail, y compris du travail ouvrier, ça a été pour les syndicats de faire reconnaître l'intelligence au travail dans des actes qui paraissent simples. Et regardez ce que c'est que le travail d'un hôte de caisse, on ne dit plus un caissier ou une caissière, on dit un hôte de caisse dans un supermarché. Ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il ne s'agit pas de passer un produit sur un code-barre. Il faut gérer les files d'attente, il faut gérer les problèmes de carte de crédit, il faut gérer l'humeur des clients, il faut gérer les étiquettes qui ne passent pas, il faut éventuellement corriger des prix, négocier sur des situations d'interaction parfois difficiles, etc. etc. Donc tout ça, on peut dire, c'est sortir de la représentation élémentaire qui dirait les emplois sont hiérarchisés comme l'intelligence est hiérarchisée. C'est évidemment pas le cas. Mais en même temps, on ne va pas demander à un hôte de caisse de s'impliquer dans son travail comme on le demandera à un ingénieur qui aura conçu le système de travail de tout ce supermarché, etc. etc. Donc il ne s'agit pas de faire de mélanger les situations et les arguments sans oublier la hiérarchie sociale ou la gravitation sociale, mais il s'agit de montrer que là où on sollicite ce que je peux appeler le carburant peut-être le plus inépuisable, la dernière ressource naturelle inépuisable, celle-là, elle le sera peut-être tant qu'il y aura de l'humanité, c'est l'intelligence humaine. C'est peut-être notre seule ressource inépuisable, du moment qu'elle est puisée en chacun et puisée dans son caractère distribué, collectif et d'interaction. Voilà le genre et c'est vrai que c'est ça le grand problème aujourd'hui, c'est d'extraire des individus peut-être davantage de capacité d'inventer, de résoudre des problèmes, tout simplement pour, je terminerai par ces trois mots, donner du sens au travail. Merci.
Merci beaucoup. En t'écoutant, Pierre-Michel, je comprends un peu mieux comment je fonctionne. Vraiment, merci. Et je me sens un peu plus banal, en fait. Je croyais être un peu original, mais en fait, je me retrouve tellement...
Bienvenue dans le club.
Alors voilà, maintenant est venu le temps de la discussion. Je pense que l'exposé de Pierre-Michel suscite chez moi beaucoup de questions, et j'imagine aussi chez vous. Alors voilà, je voudrais vous passer la parole. Qui se lance le premier? Oui.
Tout d'abord, pour dire que j'étais passionné aussi, j'ai beaucoup apprécié. Et une question très pratique pour commencer, mais comme j'ai envie d'en savoir plus, est-ce que vous pouvez donner un peu la table de matière de ce que vous allez exposer demain sans dévoiler le contenu? Et je ne sais pas si on a de la place.
Il y a encore de la place.
Écoutez, d'abord je vais régler mon exposé de demain sur la matière que j'ai extraite aujourd'hui pour éviter des répétitions, mais avoir une zone d'intersection afin que je ne vais pas recommencer à partir de zéro, mais je vais me demander demain comment on peut comprendre ce que c'est que le talent. C'est essentiellement cette idée-là. Qu'est-ce que c'est que ces mots qui servent à décrire les propriétés substantielles des individus et qu'on n'arrive pas à définir? Et néanmoins, on peut avoir une idée de quels sont les ingrédients, mais comment les définir exactement et en connaître le dosage, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce que c'est que cette machinerie dans des univers de travail qui sollicite ces qualités, le talent, le génie, l'inventivité, la créativité, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour résoudre ce problème? Voilà la question, je laisse évidemment grande ouverte pour solliciter votre curiosité au maximum.
Ça s'appelle le marketing, ça. D'autres questions?
Oui,
vas-y.
Alors, oui,
peut-être qu'on n'a pas besoin de micro.
Non.
Oui, peut-être, oui, quand même.
Ah bon.
C'est une autre question qui est un peu plus difficile à formuler, mais j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les idées se dispersent de plus en plus vite, sont quelque part copiées ou réutilisées de plus en plus vite. Et quand on voit que quelqu'un qui crée dans quelque domaine que ce soit, ça demande quand même un certain effort et investissement qu'on veut retrouver. Dans ce monde où tout se disperse très vite et il y a une compétitivité très grande, est-ce que quelque part ça ne va pas diminuer un peu un incitant de ces gens? Et comment gérer ça? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez déjà confirmer cette évolution et donner un peu un avis là-dessus.
Oui, bien sûr. Voilà.
Je crois qu'il y en a qu'un qui marche.
Il y en a qu'un qui marche, très bien. Je vais prendre peut-être le cas de mon propre travail. La recherche scientifique est typiquement un monde où ça va très vite. Il y a beaucoup de... La communauté scientifique a considérablement augmenté et l'échange, le mouvement des idées est extrêmement rapide. La question est comment vivre là-dedans. Et alors, il y a deux manières essentielles de fonctionner. La première, c'est d'avoir des obsessions et d'aller au bout. Et donc d'être opiniâtre. La ténacité est une des grandes qualités dans ces mondes-là. Il faut tenir le coup, et il faut y croire, il faut tester, il ne faut pas s'obstiner bêtement, ça c'est sûr, si c'est une impasse, il vaut mieux l'abandonner. Donc c'est pour ça qu'il faut se relier à autrui pour vérifier un peu la valeur des choses. Mais il faut de l'obstination. Et parmi les... Je cite dans mon livre un article... À propos de cette histoire de ténacité, un chercheur s'est dit, voyons, dans les conditions de la réussite, je vais essayer d'étalonner cette qualité-là, qu'est la ténacité. Il a fait des enquêtes, et j'en donne des éléments rapides, parce que ce sont des notes. J'essaie de faire des notes assez substantielles pour livrer, parce que c'est l'hommage qu'on peut rendre aux collègues, c'est de livrer non pas simplement une référence entre parenthèses, truc, 1982, fermez la parenthèse, et puis allez vous débrouiller avec ça. Mon idée dans ce genre d'ouvrage, puisqu'il est assez gros, c'était de dire un peu les résultats du travail. Bon, ça, je pense que c'est bien rendre justice aux collègues que de livrer la substance. Et cette idée de ténacité est très importante. On sait aussi, par exemple, que les gens créatifs sont des gens workaholiques, ils sont obsédés de travail. C'est pas une sorte de... Ça fait partie du jeu. C'est parce que vous absorbez beaucoup et ça nourrit. Il y a presque à un moment donné une sorte d'addiction. Donc il faut accepter ça, mais la manière aussi de capter le meilleur de l'intensité de circulation des choses, et ça s'observe de plus en plus, c'est le travail en collaboration. Ça, c'est la dimension qui est peut-être la plus sensible aujourd'hui, c'est comment fabriquer des teams efficaces? Et quel est le taux optimal de diversité des profils pour créer un team efficace? Ça, c'est un point essentiel. Et ça veut dire que, tout simplement, l'intelligence est collective et distribuée. Elle n'est pas, en quelque sorte, enfermée en chacun, et chacun aurait la capacité de se mettre à niveau, tout simplement. Non. Mais ça veut dire pas simplement non plus la division du travail stricte, c'est-à-dire moi je fais ça et toi tu fais ça et puis point. Non, c'est sophistiqué, c'est plus compliqué. Et par exemple, l'intensité de collaboration dans les sciences varie selon les disciplines et varie aussi selon les pays et selon le mode d'organisation du travail scientifique. Là où la recherche avance plus vite, on observe toujours une plus grande intensité de collaboration, d'écriture d'articles ou de recherche, d'effectuation de recherche en collectif. C'est tout à fait essentiel. Voilà. Alors, le dernier point, c'est les idées, elles sont faites pour être transformées. C'est une sorte d'humilité profonde de l'humanité que de mettre en circulation les choses. Ce ne sont jamais que des sortes de biens intermédiaires qui sont destinés à être repris, réélaborés, transformés. C'est même une des raisons pour lesquelles au XIXe siècle on s'est cabré à un moment donné contre le droit de propriété littéraire et artistique. C'était certains qui disaient non, l'auteur n'a pas à s'approprier son travail. Les idées qu'il utilise, sa matière première, c'est des idées qui circulent partout. Sa mise en forme est peut-être personnelle, mais la quantité essentielle, ce sont la matière première qui circule de toutes les idées, les thèmes. Je ne vais pas dire de banalité, mais le roman est à 90% composé d'idées, l'amour, les situations de l'amour, etc., etc. C'est la matière première du roman, l'expérience biographique, amoureuse, voilà. Donc, est-ce que c'est original? Non. Mais c'est la matière, c'est la façon de la mettre en forme, évidemment. Mais on s'est dit, est-ce qu'il faut attribuer un droit de propriété exclusive et un monopole à un auteur sur une matière qui est, qui circule partout et la mise en forme n'étant peut-être pas l'essentiel? Voilà le genre de débat. Mais, et aujourd'hui, il ressurgit parce qu'avec les technologies, on peut s'approprier extraordinairement facilement tout ce qui circule, évidemment. Et on se demande, est-ce que demain, toute la production d'idées ou d'œuvres ne sera pas une sorte de bien commun, ce qui posera d'ailleurs le problème de savoir comment on finance l'activité inventive, évidemment. Le droit d'auteur, c'était un monopole attribué à quelqu'un pour qu'il ait l'incitation suffisante pour inventer et travailler, évidemment. Donc il faudrait inventer d'autres manières de socialiser le coût du travail artistique ou le coût du travail créateur ou scientifique. Les scientifiques ont résolu le problème parce qu'ils ont mis la fonction recherche sous l'abri de la fonction enseignement. Et l'enseignement, c'est ce qui est l'activité immédiatement utile et productive, puisqu'il y a des gens qui payent, la société ou les étudiants aux États-Unis, là où c'est très payant. Et en deçà, on abrite la fonction recherche qui peut être très développée, etc. Mais voilà, donc soyons humbles et acceptons de considérer que de toute manière, les idées qui circulent, ce sont des biens qui sont destinés à entrer en collision avec d'autres et à être retransformés en permanence. Donc, évidemment, là, ce matin, j'étais faire un exposé dans un séminaire d'étudiants et dans une université parisienne, et évidemment, j'ai été bombardé, alors volontairement, de critiques qui prenaient le contre-pied, et il fallait que je défende mon affaire, mais il fallait que j'accepte aussi ce jeu-là, c'est normal, et que je sache quoi en extraire comme argument, évidemment, pour aller plus loin. Juste un point très intéressant. Si vous regardez les remerciements en bas des articles scientifiques qui sont écrits par les collègues, notamment, je pense à un article récent, magnifique, que j'ai discuté dans mes séminaires de recherche, les remerciements font une trentaine de lignes, et il y a une liste extrêmement longue de tous les environnements dans lesquels l'article a été présenté. Donc, il a été bombardé de remarques, de discussions, et il a été enrichi ainsi. Donc, il est entré dans un cycle d'enrichissement très sophistiqué, et plus on est réputé, plus on a accès à ces endroits-là, et plus on a intérêt à soumettre son travail à la discussion et à l'enrichissement de manière ouverte. Et on peut même organiser très, très, de manière très sophistiquée ces situations-là, des discutants, etc. etc. Enfin, bon. Et ça, c'est une des technologies qui est faite pour neutraliser le caractère dissipatif de l'échange d'idées afin de capitaliser quelque chose.
Oui.
Merci. Votre sujet est passionnant, le processus de création. Vous avez parlé de travail, vous avez parlé d'activité. Je voudrais savoir quelle est la différence que vous faites entre les deux. Pour moi, le travail est essentiellement une activité contrainte. Pour revenir à l'activité, il y a une théorie que vous connaissez probablement de Jean-Marie Guillot sur le vitalisme qui explique l'activité comme étant une dépense du trop-plein d'énergie. Cette dépense se fait dans les domaines où on est les plus intéressés, les plus capables, les plus motivés. Et dans ces trois domaines, il cite l'intelligence, la volonté et un troisième que j'ai oublié, les émotions. Dans l'intelligence, les personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont portées par l'envie de créer. Dans les émotions, ils sont portés par l'empathie, par l'altruisme. Et dans le troisième domaine, qui est la volonté, c'est alors là de marquer le monde de sa marque par des réalisations concrètes qui sont l'organisation, la production. Je voulais savoir si cela rentrait dans votre définition de l'activité créatrice.
Si je reprends ma casquette de sociologue, je dirais le travail, c'est l'énergie productive et l'activité, c'est la forme dans laquelle je la place. Si c'est une activité contractuelle, un emploi, un projet, etc. Ça, c'est ma manière, moi, de définir des choses. Alors, on pourrait adopter une autre définition, mais si on s'y tient, on peut aller jusqu'au bout. Et la relation contractuelle d'emploi, être actif ou pas actif, être inactif ou actif, c'est engager son effort productif et le faire rémunérer ou reconnaître d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que la statistique publique qualifie les gens. Est-ce que vous êtes actif ou inactif? Est-ce que vous êtes en emploi ou est-ce que vous n'êtes pas en emploi? Le travail créateur se laisse toujours assez malaisément interpréter en termes de strictes frontières entre ce qui est l'activité, parce que les normes classiques de définition de l'activité sont une activité visible et comptabilisable et mesurable. Or, le prix d'une œuvre d'art n'a strictement rien à voir avec la quantité de travail qui y est injectée. Elle a à voir avec tout à fait autre chose. Et c'est ce qui désespère parfois les artistes, c'est pourquoi est-ce que j'ai travaillé comme une brute à ça, et puis voilà, ça ne vaut rien. Alors que le voisin qui a travaillé peut-être deux fois moins, ça vaut 100 fois plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je reviendrai là-dessus demain, c'est pour continuer. Donc, deuxièmement, vous dites une activité contrainte. Alors, moi je ne connais pas de situation... qui ne soit pas contrainte. Nous sommes sous une contrainte métaphysique simple, c'est celle de la finitude. Et toute activité est contrainte à partir du moment où vous dites toute ressource est rare. Il n'y a aucune ressource qui ne soit pas rare. Peut-être que la seule, je disais en jouant un peu, c'est l'intelligence humaine, mais encore celle-là peut être abîmée par toutes sortes de choses, etc. etc. Donc doit avoir des conditions particulières pour s'exprimer pleinement. Alors, il n'y a que dans les modèles comme celui que j'ai cité de Marx, où on pense qu'on pourrait atteindre un niveau d'équilibre social où on aurait levé la contrainte de rareté, un royaume d'abondance, quelque chose comme ça, peut-être, mais alors en ayant diminué tellement la compétition pour les ressources, etc., qu'on dirait tout le monde peut en avoir suffisamment à condition d'avoir considérablement réduit ses besoins et ses désirs, mais comment le faire et comment proportionner à, etc. Donc la rareté, elle existe. Alors, votre argument sur l'énergétisme, en quelque sorte, dans la création,
c'est un argument qui circule depuis assez longtemps. Je discute dans le livre une des approches classiques du domaine des arts, c'était celle dont Durkheim, le grand fondateur français de la sociologie, qui reste un auteur toujours intéressant à étudier, reprenait des théories sur le caractère double de l'activité artistique. D'un côté, il disait c'est un luxe, c'est-à-dire une dépense d'énergie sans contrainte. L'énergie a besoin de se libérer dans des activités, le jeu, et sa forme beaucoup plus sophistiquée, c'est l'art. Parce que c'est une sorte de... Le capital d'énergie doit se répandre. Et il se répand facilement dans des activités qui n'ont pas une finalité précise assignée. Voilà la propriété. Donc, il est en quelque sorte l'instrument de critique de l'utilitarisme. Toutes les activités humaines ne doivent pas être subordonnées à une utilité précise, sinon on n'expliquerait rien de ce qui fait avancer la civilisation. C'est son argument. Et c'est tout à fait recevable, évidemment. Après ça, il y a l'argument qui arrive immédiatement ensuite, c'est le problème de ça, c'est que une énergie qui se répand sans limite est peut-être une énergie qui nous fait oublier qu'il y a toujours des limites et de l'ordre à respecter, qu'une société ne peut pas, en quelque sorte, se livrer à une sorte de débauche effrénée dans les plaisirs et l'individualisme l'individualisme complètement débridé. Durkheim, qui essaie de penser un contrôle social ou un ordre social harmonieux, dit si on laisse se libérer à outrance les plaisirs esthétiques et le goût de la libération d'énergie, les gens vont oublier qu'ils doivent en quelque sorte fabriquer du ciment social. Et c'est ça le problème. Donc, et ça a été repris ensuite. Ça a été, par exemple, un auteur américain qui a écrit le livre « Les contradictions culturelles du capitalisme » a dit « Les Américains, dans les années 60, ont lâché les freins et ont oublié de proportionner leurs désirs à leurs moyens réels de les satisfaire. D'où la folie du crédit. » Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Vivre à crédit, c'est en quelque sorte repousser les limites et penser qu'on est dans un univers sans contrainte de ressources. Et c'est ce qui a fait exploser cette bulle effrayante de l'immobilier et de l'endettement des Américains. Et donc voilà, c'est ce genre d'argument qui circule beaucoup. Alors le dernier point, c'est, vous me dites, il y a trois manières de réaliser les choses. Je pense toujours à les consultants aiment beaucoup des sortes de partition du monde en 3 ou 4 ou 5 ou 6, ça dépend des modèles, grandeur élémentaire qui doivent se composer. Alors, ils décrivent les différentes formes d'intelligence. Il y a un livre très célèbre de Howard Gardner qui décompose les formes de l'intelligence créative, l'intelligence analytique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence
esthétique,
oui, et d'autres. Et pour constituer des dominantes de personnalité. Tout ça a beaucoup d'intérêt, évidemment. Ça fait partie des avancées de la recherche. Le point important, c'est, je crois, on ne connaît pas la composition exacte la bonne équation. Vous avez des gens qui ont fait des inventions sensationnelles ou des réalisations sensationnelles qui n'avaient pas les mêmes profils psychologiques. Et alors, les psychologues arrivent là-dessus en disant, nom d'une pipe, quel est le secret? Nous allons étudier toutes ces biographies de grands scientifiques, de grands artistes, d'entrepreneurs, etc. Et en étudiant les biographies avec la précision maximale, nous allons enfin craquer le secret de l'intelligence créative. Et ça ne marche jamais vraiment. Parce qu'on finit toujours par énumérer des facteurs, et à un moment donné, on se dit, bon, mais alors, quelle va être la bonne équation? C'est ça le problème. Et donc, la quête du Graal continue sans fin.
Si je peux me permettre, j'ai une petite question alors. Richard Sennett, le sociologue, oui, a beaucoup parlé, me semble-t-il, de l'artisanat.
et en particulier, selon lui, des méfaits du capitalisme actuel, en particulier vis-à-vis des travaux, je vais dire, relativement simples, hein, par exemple le balayeur, le nettoyeur de rue ou que sais-je, en disant, ben voilà, ces gens, bien que ce soit des travaux très simples, ils trouvaient une fierté en réalisant ces tâches de la manière la plus parfaite possible, entre guillemets, parfaite, ou en tout cas en y mettant tout leur cœur, etc., comme le fait un artisan. Et aujourd'hui, pour toutes des raisons d'efficacité, on leur empêche à la limite de faire cela. Alors je voulais savoir un peu comment l'artisanat, ou ce type de rapport au travail qui n'est pas vraiment créateur, mais qui essaye d'insuffler dans des travaux simples quelque chose. Et je voudrais voir ce que c'est pour vous et comment vous reliez cela à votre analyse sur le travail créateur ou non créateur.
Oui, je connais le livre de Sennett, tourne autour du craft, enfin, effectivement. C'est une figure assez ancienne de la critique de la société capitaliste, c'est de revenir au monde pré-capitaliste. Et il y a chez Marx une sorte aussi de valorisation d'un état pré-capitaliste. Mais c'est toujours plus dialectique que ça, puisque Marx décrit aussi la puissance du capitalisme, qui est de fabriquer de la richesse, de libérer des forces productives. Le propre de l'artisanat, c'est une équation assez sophistiquée entre la perfection technique des gestes, accomplir le sommet du travail d'un artisan, c'est le chef-d'œuvre, c'est-à-dire perfectionner l'état des techniques qu'on a acquises par la transmission directe d'un maître qu'on a fréquenté pendant des années et des années et dont on reçoit les secrets qu'on applique, non pas pour devenir meilleur que lui, plus original que lui, mais pour aller aussi loin que lui et peut-être meilleur dans l'application des techniques, dans l'application des règles. Je simplifie un peu, mais il est question de virtuosité, il est question d'ingéniosité, il n'est pas question d'originalité et d'innovation radicale. Ça, c'est la caractéristique de l'artisan. C'est ce qui est... Et la deuxième caractéristique, c'est l'autolimitation de la compétition entre eux. Ça veut dire, nous ne nous concurrençons pas pour avoir plus d'originalité que l'autre. Nous avons une règle d'or qui est, ou plus de marché qu'un autre aussi, nous avons une règle d'or qui est, nous nous répartissons le travail au mieux de nos intérêts collectifs. Donc c'était une organisation corporative et une organisation d'un métier pour aller vers la perfection et pas vers l'inventivité et la créativité originale. Alors, voilà les contraintes sous lesquelles ça se place. Donc, si vous voulez dire, comme le disait Ruskin ou Morris au XIXe siècle, pour critiquer l'excès de romantisme et parfois l'excès d'arbitraire dans le travail, si vous voulez dire la composante du métier est toujours importante pour rappeler que ça ne sort pas comme ça de nulle part, mais qu'il y a l'application de techniques et de connaissances acquises, je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi que le curseur, sans arrêt, il faut prendre en composition deux forces, celle des règles ou du métier et celle de ce qui déroge aux règles. La grande définition historiquement fondatrice de la théorie moderne des activités d'invention créative, c'est la définition kantienne. C'est quand il dit le génie, c'est celui qui crée sans règles et dont le travail est un modèle pour les autres. Ça veut dire il extrait de Dieu sait où quelque chose qui ne suit pas les règles passées, mais en même temps, ce qu'il fait est significatif. Quelqu'un qui extrairait de son cerveau en ébullition un travail qui n'aurait strictement aucune valeur exemplaire, qui serait le produit d'une décision arbitraire, mais qui ne serait pas reconnu par autrui, quelle que soit cette forme de reconnaissance, serait simplement un personnage qui a eu des idées plus ou moins intéressantes ou délirantes, mais qui ne produit pas quelque chose de significatif. Ça, c'est l'épreuve de réalité de l'invention, c'est qu'il faut
suscite l'attention et l'estime d'autrui, quelle que soit la définition qu'on lui donne. C'est là qu'on a marqué la différence entre l'artisanat et l'artiste. C'est une différence qui préexistait à la théorie kantienne. Michel-Ange était là à dire « je suis génial » et c'est la théorie néoplatonicienne du génie, de l'inspiration, c'est ce qui me différencie d'un banal maître d'atelier. Il se comportait déjà en artiste moderne, je dirais, il allait faire jouer la concurrence entre les cours et entre les commanditaires pour extraire le maximum de liberté d'agir de cette situation de compétition. Et il était capable aussi de travailler sur commande et d'avoir une spécification relativement précise de la commande. Simplement, il apportait son génie propre, si on peut dire. C'est vrai que c'est en même temps une question qui revient sans arrêt parce que les artistes ont pu aller très loin dans la rupture complète avec toutes les règles. Quand on fait un tableau fond blanc, du blanc sur fond blanc, on met une demi-vache dans un plexiglas comme Damien Hirst et on dit ça vaut, 15 millions de dollars. On se dit alors où sommes-nous au juste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le comble de la. Alors, on peut dire que c'est une invention sans règles, mais est-ce qu'elle est vraiment significative, etc. S'il n'y a même plus de technique qui le différencierait absolument d'un autre, alors c'est l'argument banal de « Ah, j'aurais pu le faire aussi ». Ça, c'est le reproche classique du profane, c'est de dire « Mais, à l'égard de Picasso déjà, mais un âne qui aurait trempé sa queue dans un seau de peinture et qui l'aurait balancé sur la toile, ça aurait donné le même résultat. » Ou le dripping, un âne qui fait du dripping, ça donnerait Jackson Pollock. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment décomposer ce genre d'argument Alors, l'histoire montre que c'est toujours un peu plus compliqué parce que Jackson Pollock, avant de devenir le peintre du dripping, il a fait tout à fait autre chose. Et Marcel Duchamp, qui est l'origine historique de ce mouvement-là, c'est quelqu'un qui a commencé comme un peintre extrêmement traditionnel, puis qui a sophistiqué son art, autrement dit, qui a acquis des lettres de noblesse dans le milieu artistique, avant tout d'un coup de casser le jeu et de planter un urinoir ou une rue de bicyclette sur sur une stèle en disant « voilà, ça c'est de l'art, je le décide, je signe » et qui a transformé, qui a fait basculer en quelque sorte le régime d'invention par la matière et la technique dans un régime d'invention par l'ironie et l'humour et le jeu et la provocation. Et à partir de là, c'était lancé. Et les deux, en quelque sorte, les deux grandes traditions de l'art moderne, c'est ça. C'est la sophistication formelle d'un côté, et c'est l'ironie, la moquerie, le jeu, le paradoxe, poussé à ses limites de l'autre.
Oui, Léonie.
Vous avez intitulé votre conférence « Est-il rationnel de travailler pour s'épanouir ?» La réponse est évidemment positive, on s'entend. Et vous nous avez un peu décrit, je dirais, le paradis du créateur qui, par l'échange, rebondit et continue à créer. Quand on se tourne vers l'organisation du travail qui est faite par notre société, je dirais que l'image est tout à fait différente. Les pressions et des pressions pour créer et des pressions pour produire sont à tel point, je dirais, exacerbées que je ne sais pas très bien où se trouve l'épanouissement.
Alors là, vous me posez une question compliquée parce que je vais l'aborder demain. J'ai mis en quelque sorte les bûches dans le feu et demain il va crépiter. Vous aurez des cadavres et vous aurez du sang, des larmes et du drame autant que vous en voulez. Mais évidemment, je ne suis pas naïf, c'est sûr. Mais quand même, il y a une chose que je dois dire. C'est le problème. Si vous ne conservez pas quelque chose d'essentiel de ce que j'ai dit dans la signification qu'on accorde à son travail dans un horizon incertain, vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont capables d'aller vers des situations d'activité où un cinquième des gens ramasse 4/5 de l'estime, de la visibilité et de la réputation. Parce que c'est ça l'équation de base. Donc je lève un coin du voile. La question est comment s'engager dans des activités, si elles sont incertaines, dont la distribution des résultats en termes de revenus, en termes d'estime, de réputation, de notoriété est aussi spectaculairement inégalitaire. Comment comprendre que les gens s'y aventurent? Ça, c'est une question intéressante. Et donc, j'ai besoin d'avoir, pour le comprendre, un outillage qui me permet d'expliquer le succès et l'échec, et même la persistance de l'activité malgré l'échec, ou malgré la différence énorme de situation individuelle. Je ne peux pas en dire plus, sinon je prends le contrat.
Non, bon, tu peux y aller. Hein, tu peux
non, je m'y tiens. Okay. Voilà.
Et le livre, on a des exemplaires du livre pour...
Je ne veux pas faire du marketing absurde. Je ne fais pas ce métier pour m'enrichir, sinon je ne serais pas là. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit au millimètre. L'écriture, elle a cette propriété-là, c'est qu'elle vous calibrez vos mots et vos raisonnements au cordeau. Et donc, je ne peux que vous dire... voilà, c'est écrit. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la Bible et la table des lois. Ça veut dire que ça peut être soumis à votre regard encore plus aigu et plus critique. Mais, voilà.
Oui, ma question, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer. Je pense que les sociétés sont de plus en plus sensibles justement à ce changement vers l'épanouissement et la créativité. Mais j'aimerais savoir comment ça se fait que à l'opposé, au début en fait du spectre, à savoir l'éducation, il n'y a aucun changement, si ce n'est dans quelques exemples comme Montessori ou Steiner, à qui on met des bâtons dans les roues autant que possible pour justement éviter que ça se développe, alors que c'est ces écoles-là et ces modèles-là, entre autres, qui pourraient répondre justement à ce nouveau modèle en tant que futur adulte de demain. Donc, je voulais savoir par rapport à ça, comment ça se fait que l'éducation ne soit pas en résonance avec ce qu'on est en train de constater de nos jours dans le monde adulte et du travail.
Je ne suis pas un spécialiste de sociologie d'éducation, d'analyse des systèmes éducatifs, mais je peux vous répondre au moins un peu sur le sujet. D'abord pour vous dire qu'il y a une assez grande variété d'expériences éducatives, mais que l'essentiel cœur des systèmes éducatifs est profilé pour répondre à une définition moyenne de l'éducation. Ça, c'est vrai. Et l'expérimentation et la diversité des solutions, que ce soit Montessori ou d'autres, il y a de la compétition dans ce champ-là aussi, ça n'est pas exactement la qualité principale d'un système éducatif de masse. Comme celui que nous avons configuré. Le monde de l'éducation, en tout cas il est comme ça en France, il est incroyablement normé par des règles, par des statuts, par des programmes, par des règles, des principes pédagogiques qui peuvent alterner, etc. Il y a des disputes incessantes, mais qui n'accueillent guère, qui ne sont guère tolérantes à la variabilité des profils individuels et des demandes individuelles. En revanche, et c'est là une des différences et une des inégalités les plus considérables de nos sociétés, c'est qu'une partie considérable du travail éducatif se fait en dehors de l'école. Et l'intensité d'efforts des familles fait une différence gigantesque dans la productivité de l'éducation qui est délivrée à l'école ou ailleurs. Et notamment le rôle des mères, comme avait dit un jour un de mes collègues sociologues qui avait étudié ça avec des données, il avait intitulé son article « Les mères persévèrent ». Mère, père, persévère. C'était un jeu de mots un peu lacanien, mais c'était très joli. Et c'était vrai. Ce qui est toujours le plus discriminant dans la réussite des enfants à milieu social donné, c'est l'intensité d'effort dans la famille pour augmenter la qualité d'éducation des enfants et le soin qu'on y met et la diversité des surplus qu'on y ajoute. Et ça, c'est incroyable. C'est ça qui fait des inégalités énormes et que ne compensera jamais un système éducatif qui est prié d'absorber toute la diversité des situations sociales et de les résoudre dans une équation plutôt qui veut être égalitaire, mais qui, en étant plus égalitaire, relativement égalitaire, ça n'est vraiment pas ça, simplement, évidemment, cherche à centrer l'offre sur des recettes et des solutions, en quelque sorte, plus standardisées. C'est un des grands problèmes. Mais les familles et les parents peuvent se procurer le reste ailleurs, d'une certaine manière. C'est ça le mécanisme principal.
Pour rebondir, enfin, je sais pas s'il y a encore d'autres questions. On va
tout doucement.
Oui.
Petite question.
Si tu permets, juste avant que tu la poses, je voudrais quand même rebondir sur ce que madame a dit en disant que notre société allait vers plus d'épanouissement dans le travail. Hein, si je vous ai bien compris. Là, j'aurais quand même une question qui est, si on regarde Boltanski et Capello, hein, le nouvel ordre du capitalisme, en deux mots, il dit, voilà, les managers ont essayé de récupérer la critique 68 heures de la critique artiste en essayant de convaincre les gens qu'ils allaient s'épanouir dans le travail et que c'était une manière, en fait, pour mieux les embrigader. Alors, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela ?
Oui, c'est une... Il y a une histoire longue qui précède de loin l'argument de Capello et Boltanski, les high-performance environments, les environnements de haute performance dans le travail, ça date des années 50 et même avant, aux États-Unis. C'est une histoire beaucoup plus ancienne que la découverte 68 ans des choses. Donc, il y a en permanence l'effort pour dire comment faisons-nous pour résoudre cette équation impossible, motiver les gens en les contrôlant, en leur assignant des buts et des critères de performance, etc. Autrement dit, ajouter deux propriétés qui sont contradictoires. Motiver, c'est se soustraire à un but contrôlant, et productivité, c'est il faut que je mesure bien quelque chose parce que j'ai un impératif de profit. Point. De productivité profitable. Bon, un entrepreneur n'est pas il a ce genre de contrainte, sinon il disparaît. Il est balayé par la compétition, etc. Donc, ensuite arrive le problème de savoir. Dans une sociologie normative, parce que l'essence, je pense, il faut prendre en compte ce problème-là. Une sociologie critique est une sociologie qui a implicitement une position normative, qui dit, dans un monde meilleur, voilà comment les choses peuvent se jouer. Comment on peut se débarrasser du caractère mauvais d'une situation actuelle. Et dans l'argument de Capello et Boltanski, cette affaire-là prend la forme suivante, c'est au lieu d'une contrainte explicite, on fait une contrainte implicite. Mais, d'une certaine manière, on tourne toujours dans la cage de fer. Quoi qu'on fasse, c'est la catastrophe. Alors, le manager qui veut être sympa, c'est un salaud au carré. Et ça, c'est quand même un problème, parce qu'on n'en sort plus. Ça veut dire que, tout simplement, la relation d'emploi avec son caractère contraignant, l'employeur exige quelque chose, moyennant salaire et contrat de long terme qui procure une sécurité d'une certaine espèce, mais en retour il exige quelque chose. Alors s'il va l'exiger en insinuant qu'il doit l'obtenir par du charisme et des choses comme ça plutôt que par la contrainte formelle, bon, ça c'est un argument à la Foucault et on ne voit plus très bien comment s'en sortir. Quel est le monde dans lequel on sera libre et en quelque sorte totalement épanoui? Voilà le genre de situation auquel on mettrait tous les arguments en phase en disant je m'épanouis, je n'ai pas de contraintes de rareté, je crée de la richesse et je ne suis jamais contrôlé ni sanctionné. Bon, ok, mais où est-ce qu'on est là? Est-ce que ça correspond à une définition quelconque? Je pense que la meilleure définition possible de l'activité, c'est savoir négocier sur les éléments de contrainte et en obtenir dans la négociation, qui est un jeu perpétuel de tension de force, c'est de savoir agir sur les marges de manœuvre et les rémunérations du travail, les degrés de liberté dans le travail, et, etc. Et puis l'affaire reprend, et le mouvement repart dans l'autre sens, et à un moment donné, la négociation repart en quelque sorte, se réinstalle pour dire « Non, là, vous allez trop loin. Quelqu'un qui est maintenant connectable en permanence à son entreprise et donc surveillable aussi en permanence par son entreprise à travers ses outils de travail électronique, bon, jusqu'où ça va ? Donc, on fait le point, on regarde et on discute et on négocie. C'est comme ça que ça se passe. Mais cette négociation est toujours plombée par la compétition internationale aussi. Et donc, on relance le mouvement en permanence. Et ça, je veux dire qu'il n'y a pas de principe de stabilité de ces situations-là. Ce sont des forces qui s'opposent les unes aux autres. Et il faut accepter cette situation de cette manière-là et équiper, évidemment, les gens de capacité de négocier dans un jeu de force. Mais ce jeu de force, il n'est pas aussi simple que de dire l'un est le grand Satan et l'autre la grande victime absolue. Si on pousse l'exercice si loin, on n'arrive à rien. De toute manière, on fige le jeu en le tirant à l'extrême. C'est évidemment autrement qu'il faut penser les choses, ne serait-ce que pour mieux équiper les gens, au lieu de leur faire, en quelque sorte, miroiter un monde meilleur qui est hautement improbable.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la dernière phrase que vous venez de prononcer. Je trouve qu'il y a un côté très élitiste et très... faisons rêver les salariés ou les collaborateurs d'une entreprise à une réalité où on peut réellement s'épanouir dans une entreprise. Ça fait 20 ans que je travaille, j'ai connu des environnements de travail très différents et j'ai renoncé à travailler dans une structure très, très organisée et je suis maintenant tout à fait indépendant en travaillant de façon très, très flexible et très souple avec des collaborations très, très ponctuelles. Et je trouve qu'il y a un côté un peu très élitiste dans ce fait de faire miroiter cette idée qu'on peut vraiment s'épanouir au travail, parce que je crois que cela concerne, j'ai envie de dire, une relative minorité de personnes dans les sociétés. Malheureusement.
Alors.
Et c'est pas. C'est vraiment mon sentiment profond. Quand je me balade dans des grands magasins, ce que je fais le moins possible, et quand j'accompagne mes enfants à l'école, ou quand je vais les chercher.
Alors, d'abord, bien sûr, ce que je voulais faire, et qui serait une manière de le redécrire autrement, c'est d'abord de dire, dans les situations où le travail est très valorisé, donc où il est qualité expressive, il existe des situations comme ça. Il se trouve que ce sont celles qui ont un caractère fascinant, parce que c'est celles que nous admirons, c'est celles qui ont même engendré des choses qui durent pour l'éternité. Le travail incarné dans une œuvre durable, il y a absolument, dans la production de toutes les civilisations, il y a très peu de biens qui traversent le temps. Très peu. Les œuvres d'art et les découvertes scientifiques, et encore plus les œuvres d'art, ont cette propriété tout à fait exceptionnelle de durer à travers le temps. Et je pense que parce qu'elles ont incorporé le fait qu'elles sont très peu utilitaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étudier le travail dans ces conditions-là ? Ça veut dire chercher à en extraire certaines propriétés pour comprendre pourquoi le travail peut avoir une valeur positive et une valeur gratifiante. Ensuite, il entre en composition avec toutes les situations réelles d'action, mais dans votre environnement, à vous aussi, il y a des moments où vous avez le plaisir à faire ce que vous faites et d'autres où vous vous ennuyez mortellement. Et il est assez classique de chercher à augmenter le taux de non-routine pour s'évader de la routine. Ça, ça fait partie des situations habituelles. Et le management, d'une certaine manière, passe son temps à essayer d'inventer des solutions pour tirer dans ce sens-là et pas dans l'autre, autant que possible. Et c'est aussi une des demandes actuelles du travail, et elle est relancée sans arrêt, c'est d'enrichir le sens du travail. Alors après, il y a toutes les contraintes qui se sont empilées les unes sur les autres. Et la mondialisation ajoute des couches considérables de contraintes, évidemment. Il suffit d'aller se balader en Asie pour voir que l'énergie de travail, elle est peut-être d'abord provoquée par tout simplement des sociétés qui se développent à toute vitesse et où la question, mais à un moment donné, se pose évidemment ce genre de situation. Alors, mon effort était d'abord celui-là, c'est de dire, regardons comment travaillent des mondes qui sont très admirés et qui occupent une certaine position dans la hiérarchie sociale et qui ne sont pas la totalité, évidemment, qui peuvent être une partie relativement étroite, mais qui disent des choses sur le travail. Deuxièmement, et ça c'est l'autre point essentiel, la qualité expressive de ce travail-là, elle est acquise sous une condition exceptionnelle qui est un degré très élevé d'incertitude et donc de risque d'échec ou d'asymétrie de récompense. Le travail ordinaire, il est acquis sous des conditions relativement simples d'échange, sécurité contre subordination. Je contrôle bien le travail, je peux m'assurer de sa mesurabilité, je procure à l'individu la sécurité d'un contrat de long terme, ça évoluera dans des conditions qui sont assez bien définies. Et sa productivité, je la rémunérerai, je lui donnerai un salaire qui est en dessous peut-être de sa productivité au départ de sa carrière et qui est au-dessus de sa productivité à l'arrivée. C'est le caractère intertemporel d'un contrat de long terme. En quelque sorte, quand on est jeune, on est payé peut-être moins que ce qu'on devrait, et quand on est âgé, on est payé peut-être un peu au-delà de ce qu'on devrait, parce que les qualités qu'on a mises en jeu s'usent par rapport à celles de gens plus jeunes, les forces, etc. Mais ça fait partie du pacte, en quelque sorte, du pacte du travail quand il repose sur une carrière de long terme. Ici, dans les activités qui sont plus gratifiantes, elles sont exercées sous une contrainte de risque. Et c'est ça qui est intéressant. Autrement dit, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Comment les gens sont-ils équipés pour affronter ces situations de risque? Voilà le genre de problème qui est intéressant. Et comment les gens vivent-ils dans des mondes incroyablement inégalitaires et qu'ils prennent ça en pleine figure? Comment ça marche? Voilà le genre de question qui déclenche tout le processus de questionnement et de raisonnement et d'argumentation que je développe. Et demain, je continuerai sur ce thème-là, évidemment, parce que c'est ça le problème. Vous avez des situations plus normales dans un monde que je dirais gaussien. La courbe de Gauss, c'est tout le monde est situé à peu près au centre de la distribution. Chacun peut faire raisonnablement son travail dans de bonnes conditions quand on est dans des travaux qui sont plus faciles à calibrer avec des qualités qui sont moins spectaculairement inégalement distribuées. Quand on est dans un autre type de travail, on a affaire à des propriétés radicalement différentes. Voilà.
Et donc, au bout de la courbe de Gauss, combien de pourcents de la population du milieu du travail et des travailleurs dans les entreprises sont réellement concernés par cette dimension de plaisir et d'expression et de réalisation du travail? C'est pas polémique, mais c'est justement pour comprendre, parce que j'ai l'impression d'avoir une chance exceptionnelle de faire ce que je fais pour le moment, et j'ai l'impression que ça concerne.
Mais il est bien évident que le travail peu qualifié n'a pas du tout des propriétés motivantes, au moins au départ, qu'on peut évidemment rechercher dans un travail plus sophistiqué. Il faut régler les outils de cette manière-là. Cela dit, il y a des travaux, il y a deux correctifs. Premièrement, l'idée est de dire, et on rebondit sur la question de tout à l'heure de Laurent, c'est analyser les actes de travail de manière un peu sophistiquée, ça permet aussi de dire les gens ne sont pas des idiots dans du travail simple. Les gens ont une intelligence dans des actes de travail qui peuvent paraître simples, mais et c'est ça la lutte aussi des syndicats de travailleurs peu qualifiés, c'est de faire reconnaître des compétences qui ne l'étaient pas avant. Et donc les choses changent, les choses bougent. Jamais autant qu'on peut le supposer ou qu'on pourrait l'espérer dans un monde où les ressources seraient distribuées autrement, mais elles bougent. Ça, c'est un point tout à fait fondamental. J'oublie le deuxième argument, zut. Cette histoire de. Il y a un travail très, très intéressant là-dessus qui était la chronique des luttes et des conquêtes syndicales sur la reconnaissance de la qualification de gens peu qualifiés. Autrement dit, arrêter de considérer que le peu qualifié, ça veut dire zéro intelligence au travail. Ça, c'est une manière de détruire en quelque sorte la chose. Ah oui, la deuxième chose que je veux dire, c'est il existe aussi une perversion des techniques managériales qui consisterait à appliquer à des gens qui exercent des travaux relativement simples des techniques qui sont appliquées dans le monde du travail sophistiqué. Quand on entend que à France Télécom, il y avait un tableau d'honneur de la performance de la semaine mis en quelque sorte en évidence parmi des opérateurs téléphoniques ou des choses comme ça, on croit assister à un tournoi de célébrité qui serait appliqué dans le monde des arts et de la science, appliqué à du travail simple. Là, c'est en quelque sorte soumettre à une injonction absolument mortelle et insupportable des gens qui exercent leur travail plutôt dans le sentiment qu'ils se situent en gros dans une activité normale qui ne suppose pas des performances superlatives. Leur faire la contrainte de performance superlative et les mettre en tournoi les uns par rapport aux autres de cette manière-là, ça c'est une perversion de l'outil. Voilà le genre de choses que je veux dire aussi.
Oui. Oui. On peut encore plus que la dernière question.
Sur le travail créatif, je voulais dire que le défi démographique, c'est que les baby boomers attention, depuis le milieu des années 70, la natalité a fortement baissé. Donc, pour tout ce qui est fonction un tout petit peu qualifiée, je ne parle pas d'ingénieur en aéronautique un peu qualifié, on va à toute vitesse vers une pénurie énorme de main-d'œuvre dans plein de secteurs. Donc, le défi créatif pour les entreprises, telles qu'elles soient, c'est de créer un environnement agréable pour que les gens acceptent de venir travailler dans votre entreprise. J'entends ici autour de moi, pas un peu à la brosse noire, il y a du travail, il y a quelques pourcents d'élite là, qui s'amusent bien, qui font des choses créatives. Moi, je pense que les entreprises qui réussiront demain, que ce soit des entreprises de nettoyage, de comptabilité, enfin des choses qui peuvent paraître rébarbatives. Moi, je m'occupe de matières très techniques dans le droit, c'est a priori pas drôle, mais pour que les gens de très haut niveau acceptent de venir travailler chez vous, vous devez développer des trésors de créativité pour que, malgré ces matières rébarbatives, ils trouvent un intérêt à venir chez vous et y rester. Je sors du sujet, mais je voulais réagir.
Non, vous avez raison.
On est au cœur du sujet, mon ami.
Oui, absolument. D'abord, alors pénurie de main-d'œuvre. Bon, il y a beaucoup de mécanismes qui jouent. Effectivement, il ne faut jamais raisonner, je pense, en termes de vases communicants simples, parce que les frontières sont assez ouvertes, malgré les problèmes d'immigration. Et d'autre part, ça désigne aussi un des problèmes majeurs de nos sociétés actuelles. C'est vrai que le cœur du développement ou de la croissance, c'est par hasard si on a mis l'accent tellement sur la formation, la connaissance comme source de croissance endogène. C'est ça le ressort de l'innovation. C'est-à-dire, mais la connaissance, elle ne s'acquiert pas n'importe comment. Moi, je suis frappé en France, je dois le dire, par l'insigne faiblesse du raisonnement sur comment est délivrée la connaissance dans le monde universitaire. Qu'est-ce que c'est que l'acte pédagogique d'un universitaire? On ne le sait pas, on n'y prête aucune attention. Et dans les pays qui ont pris à bras-le-corps le problème de l'économie de la connaissance, ce n'est pas du tout ça. Il y a un océan de travaux sur ces questions-là, un océan aussi d'évaluation, de travaux qui comparent, du benchmarking, etc., etc. On prend très au sérieux ces histoires-là. Chez nous, on peut être un maître en chaire, délivrer son topo et puis se dépêcher d'aller gagner l'essentiel de son argent ailleurs que devant ses étudiants avec qui on fait ses petites affaires et point final. Ça, pour moi, c'est la route à abandonner de toute façon. Donc, on a beaucoup de progrès à faire dans ce sens-là. Et ça reste toujours un défi que de savoir comment ajuster le marché du travail et l'offre de formation. Ça, c'est un casse-tête perpétuel. Entre le modèle adéquationniste où on dit on a besoin de telle et telle spécialité, etc., donc on va ajuster toute la tuyauterie de la formation pour faire correspondre les besoins du marché du travail au système de formation d'un côté, et puis le côté l'étudiant arrive en fac, il s'épanouit, il vit la vie agréable d'étudiant et c'est une partie d'expérience de sa jeune adolescence joyeuse et insouciante. Entre les deux, il y a un monde évidemment, et il faut savoir ne pas rester dans la naïveté. Bon, ça c'est un point essentiel. Ensuite, comme vous dites, le casse-tête perpétuel, et c'est pour ça que le management et toute la littérature managériale est une sorte de relance permanente de l'épreuve. Vous pouvez sortir autant de livres que vous voulez, j'en avais deux en main qui sortaient chez Harvard Business Review, Business Press, qui étaient top talent, comment on les garde. Et alors il y avait travailler sur les gratifications non monétaires, etc. Il y avait sept principes et exactement aussi un environnement de travail qui soit plus friendly, qui ne soit pas strictement aussi lourdement hiérarchique, etc., etc. Donc il y a sans arrêt et il y en a un océan de ces choses-là. Donc les outils existent et ensuite ils sont mis à l'épreuve évidemment du réel. Et l'épreuve du réel, c'est jamais les outils ont toutes les solutions en main et ensuite on y va. Parce qu'en permanence, il y a des chocs externes, on est dans un monde ouvert, dynamique et pour le pire et le meilleur, où la compétition agit sans arrêt, vous déloge à un certain moment donné, donc vous devez resserrer les boulons et ce qui a été accordé à un moment ne le sera plus après, etc. etc. Mais pourtant, en permanence, les gens, alors dans votre cas, vous parlez de gens de travailleurs relativement sophistiqués, on ne peut pas attirer les travailleurs sophistiqués avec des règles élémentaires, c'est clair. On doit leur donner quelque chose qui correspond à leur attente, à leurs aspirations, à leur valeur de marché. D'ailleurs, s'ils ont une vraie valeur de marché, la première manière dont ils réagissent, c'est qu'ils ouvrent la porte et ils s'en vont. Et puis voilà.
Donc on va rester là. Je voudrais vraiment vous remercier avant que Luc n'apporte ses cadeaux optimistes. Je voudrais vraiment vous remercier tous, et en particulier Pierre-Michel, pour son exposé, que j'ai vraiment trouvé passionnant. Et je pense que la qualité des questions qui a suivi cela en témoigne également. Je dirais que dans tout ce que tu as dit, il y a tellement de richesses que c'était parfois même, en tout cas pour moi, difficile de bien formuler la question pour coller à ce que tu avais dit. Maintenant, il y a eu un petit jeu où on avait l'impression que tout ceci n'était qu'une manière d'appâter les gens pour venir demain. Je voudrais en profiter pour préciser.
Tu m'avais donné la règle.
Absolument. Mais la règle était de dire simplement que ce sont deux exposés différents parce qu'il y a parmi nous des gens qui seront là demain également, hein, que donc on veut éviter que ce soit redondant pour eux. Mais je voudrais simplement bien préciser qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, nous n'avions que des séminaires le samedi, séminaires qui sont, pour beaucoup de gens, relativement onéreux, puisque nous sommes en groupe restreint, hein, pour avoir vraiment une qualité de débat la plus intense possible, mais que justement, pour pouvoir alors ouvrir la possibilité d'écouter nos orateurs à un public plus large, nous avons créé en partenariat avec, avec Luc ces conférences le vendredi soir pour vraiment alors, à des prix beaucoup plus démocratiques, il faut le reconnaître, offrir l'accès de ces orateurs à un plus grand public. Voilà, je voulais le préciser, mais enfin, s'il y en a qui veulent nous rejoindre demain et qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent venir me voir tout à l'heure. Je voudrais encore préciser que nous allons mettre en vente quelques-uns des ouvrages de Pierre Michel à la sortie de ceci, puis il y a un verre qui vous attend. Mais je passe la parole à Luc.
Merci beaucoup. Alors moi j'ai entendu que vous avez dit que si vous aviez fait fortune, vous ne seriez pas là ce soir. Je trouve ça un peu prétentieux.
Non, je veux dire que je n'aurais même pas connu l'existence de l'agitation des idées pour le plaisir de l'agitation des idées qui est le plus grand des plaisirs.
Voilà.
Donc j'aurais manqué quelque chose d'essentiel. C'est une preuve d'humilité au contraire.
Alors vous avez parlé aussi de délire mégalomaniaque et... Je me souviens qu'un jour, je plaidais pour un patron de banque assurance qui avait pris quelques libertés avec l'éthique et le droit, on va dire. Et le président du tribunal me dit « Avouez, maître Simonet, que votre client est quand même mégalomane. » Je dis « Monsieur le président, j'ai une certaine tendresse pour les mégalomanes parce qu'après tout, il y a suffisamment de micromanes pour faire la compensation. » Plus sérieusement... Vous avez parlé de l'importance du regard de l'autre. Et moi, je me demande si le fait d'être plus dans l'enthousiasme, si précisément ça n'est pas une manière de se guérir, au fond, de l'importance du regard de l'autre, parce que, au fond, l'importance du regard de l'autre, c'est dû aussi au narcissisme. Et nous savons que le narcissiste n'est pas celui qui s'aime, c'est celui qui n'a pas d'existence intérieure et qui regarde, enfin qui tente de trouver dans le regard de l'autre son existence. Donc la question, évidemment, me semble-t-il, c'est de savoir comment arriver à être enthousiaste.
C'est super. Je voudrais juste ajouter un tout petit commentaire parce que ça, je ne peux pas m'empêcher de le faire. J'ai vu une exposition de Gustave Courbet à. C'était à New York, c'est pas pour faire à New York, c'est comme ça, c'était là-bas, je m'y revois. Et il y avait au mur un texte de Gustave Courbet qui disait, à l'âge de 20 ans, si je n'ai pas l'intention, si je ne pense pas que je vais casser la cabane, je parle vite, que je vais faire un malheur dans le monde artistique et que je vais révolutionner le monde artistique, c'est même pas la peine de commencer. Il le disait quasiment comme ça, donc mégalomane, fonctionnel. Et pour le regard de l'autre, il se peignait, il se représentait lui-même devant son mécène. La barbe de Courbet était comme ça, toute droite, et le mécène était courbé devant lui, gentiment. Et donc, c'était l'ordre normal des choses. La puissance de l'art doit dominer la puissance du mécène, mais le mécène était néanmoins devant lui et représenté. Donc, il avait sa part de gloire aussi.
D'accord. Alors, je vais... Merci beaucoup. Je vais vous offrir le parapluie de la mythe, de ce mythe. Alors on dit que ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Je vais le faire parce qu'après tout, on s'en fout, puisque dans la vie, on ne sait jamais ce qui est un bonheur, ce qui est un malheur, puisqu'un malheur peut amener un bonheur, un malheur. Voilà. Donc je l'ouvre et vous allez voir qu'il est marqué dessus, c'est un beau jour de pluie. Et en irlandais, wat een mooie regendag, et je suis sûr qu'à Paris, ce sera très smart. Voici un parapluie. Je vais vous remettre aussi
mon parapluie.
Voilà, le parfum d'optimisme que nous avons créé.
Ah, formidable.
Voilà. Alors, je vous invite à prendre.